Bonjour, pour cette nouvelle interview, j'ai le grand plaisir d'accueillir un conférencier multi-auteur, donc plus de 15 ouvrages à son actif. Donc c'est le CEO de Tomorrow Theory, de Les Émergences également. C'est un expert du futur du travail, du futur des compétences. Et donc il a sorti plusieurs ouvrages, dont 2045 futurs possibles et comment s'y préparer. Et également un livre qui sort ce mois-ci. Donc, la charge cognitive au travail aux éditions EMS. Et j'ai l'énorme plaisir d'accueillir Jérémy Lamry. Bonjour Jérémy.
Bonjour Jérôme, merci.
Avec grand plaisir, merci beaucoup d'être parmi nous aujourd'hui pour parler justement de ce sujet qui concerne vraiment tout le monde, le futur, comment s'y préparer et surtout comment regagner confiance. Parce que c'est vrai que quand on voit en ce moment-là, à l'heure à laquelle on tourne cette interview, la canicule, on parle de plus en plus d'IA qui va détruire des emplois, on parle d'obsolescence de compétences, d'instabilité socio-économique et politique. En fait, on a vraiment de quoi être inquiet et perdre confiance dans le futur. Toi, est-ce que tu arrives quand même à garder cette confiance dans le futur?
Bien sûr, et il y a des jours où c'est plus dur que d'autres, mais je continue à penser que si j'abandonne complètement, ça sera encore pire. Et donc, je me dis, d'un côté, il faut que je fasse, faut que je fasse le deuil d'un monde parfait à court terme, des choses comme ça. D'un autre côté, je me dis, si on est suffisamment à se battre pour que les choses s'améliorent, on peut reprendre la main. Je pense que le pire des ennemis, c'est de penser qu'on ne peut rien faire.
Ok, et comment on peut faire justement, parce que des fois on peut se sentir impuissant, de se dire mais oui, en fait il se passe ci, il se passe ça, mais moi au final, je suis presque, enfin, certaines personnes sont en souffrance en fait par rapport à cette situation et se sentent totalement impuissantes. Comment on peut, à notre niveau, à notre échelle, réussir à reprendre la main ou en tout cas se sentir un peu plus prêt par rapport à différents futurs qui sont possibles?
Je pense que c'est un chemin. C'est un chemin de pouvoir reprendre la main, de pouvoir retrouver ce qu'on appelle son pouvoir d'agir. Et la première chose, ça commence par comprendre. Très souvent, quand on voit tout ce qui nous arrive, on voit la canicule aujourd'hui, on voit les perspectives qu'on nous présente demain. Eh bien, on peut avoir vite fait de mettre des émotions là-dessus, de mettre un jugement. Et en fait, une règle importante, c'est je vais déjà essayer de comprendre ce qui se passe, comprendre d'où ça vient. Par exemple, est-ce que parce qu'on a la canicule là, on va avoir la canicule tous les jours le reste de notre vie. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est des épisodes de chaleur. Et à côté de ça, on connaîtra aussi des épisodes de grand froid, des épisodes de tempête. Donc, c'est comprendre ce dérèglement. Ça va être comprendre aussi, en fait, aujourd'hui, je peux avoir l'impression que les problèmes que je vis sont liés à un tel, un tel, un tel. Et certains nous proposent des solutions faciles face à ça. Du style, votez pour moi, j'éliminerai tous vos problèmes. C'est aussi comprendre ce que ça fait, ce que ça peut créer comme futur de choisir cette facilité-là. Donc, c'est tous ces sujets-là. Comprendre, c'est la première base. Le deuxième, après, ça va être relier. C'est quand on est tout seul, on est impuissant. Quand on est tout seul, en fait, c'est dur de changer les choses. Quand on est suffisamment, c'est l'effet boule de neige et on a un poids. On a un poids sur les politiques et surtout, on a un poids sur le terrain par les actions. Et ça, c'est le troisième levier, c'est agir. Et donc, quand on veut se mettre dans une démarche où on dit, je ne veux pas subir et rester là, rien faire. C'est comprendre, relier, agir.
Dans ton livre sur justement 2040, tu parles de cinq futurs possibles. Rapidement, on ne va pas refaire tout le livre, bien entendu, mais est-ce que tu peux nous donner des idées de quels sont ces cinq futurs possibles? Est-ce que c'est tous des futurs justement terrifiants ou est-ce qu'il y a quand même des futurs possibles qui sont encore positifs et joyeux? Voilà, c'est quoi ces futurs possibles?
Alors, bien sûr qu'il y a encore des futurs qui sont positifs, qui sont souhaitables et qui sont probables. Aujourd'hui, rien n'est déterminé. On a travaillé plus en amont. Donc, moi, ça fait 15 ans que je travaille sur ces sujets-là et on a créé un peu plus de 1200 scénarios sur ce à quoi pourrait ressembler le futur à horizon 2040. Pas seulement pour se faire plaisir ou trouver des idées. C'est une démarche d'ingénieur structuré avec des paramètres, des critères. Ce sont des analyses et à chaque fois, sur ces scénarios, il y a des hypothèses qui disent, tiens, il va se passer ci ou ça, et suivant si ça arrive ou non, dans le temps, on dit ça, c'est pas arrivé, ce scénario, on l'enlève. Tout ça, ça crée cinq grandes familles de scénarios, c'est ce qu'on explique dans le bouquin. Et il y a des scénarios qui sont terribles, ceux dont on ne veut pas, qu'on appelle les scénarios d'effondrement. Donc l'effondrement, c'est le moment où la structure telle qu'on la connaît, l'État, tout ça, ne peut plus remplir son rôle. Donc, plus de police, plus d'éducation, plus d'hôpitaux, tout ça. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un effondrement. Et il y a mille et une raisons qui peuvent provoquer un effondrement. Un astéroïde qui s'écrase sur la Terre, une révolte civile. Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles ça peut arriver. Et aujourd'hui, il n'y a rien qui nous dit que ce scénario est plus probable qu'un autre. Le deuxième scénario, c'est la dystopie. Donc, la dystopie, le système tient. En revanche, on contraint les gens de plus en plus, pour une raison ou une autre, hein, soit par la technologie, soit comme dans la Servante écarlate, pour des raisons idéologiques, religieuses. Il y a plein de manières de faire. Dans ce scénario-là, on sait une chose, c'est que les gens ne sont pas heureux et que les fractures sont énormes dans la société. Ça aussi, on veut l'éviter. Il y a un troisième scénario, qui est un scénario qui est probablement l'un des scénarios les plus souhaitables, mais aujourd'hui, probablement pas très réaliste, malheureusement. C'est ce qu'on appelle la décroissance consciente. Ce serait un scénario dans lequel tous les grands dirigeants du monde se mettent d'accord sur le fait qu'on fait un peu n'importe quoi et qu'il faudrait tous ralentir et arrêter de regarder juste l'argent. C'est super comme scénario. De là à dire que ça va arriver demain, il nous faudra un peu plus de maturité collective. Mais je l'ai mis dans les scénarios parce que je me dis que ça reste un horizon qu'il faut défendre. Se dire en fait qu'il ne faut pas chercher le plus. Le quatrième scénario, c'est celui que moi je défends à titre personnel, c'est ce qu'on appelle les scénarios de néo-humanisme. Ce sont des scénarios dans lesquels on se dit, en fait, il faut que le monde et la société restent avant tout vivables pour l'être humain. L'humain n'est pas au service de la société est au service de l'humain. Et donc, comment on remet ça en place? Et donc, ça veut dire, par exemple, aujourd'hui, la principale mesure avec laquelle on va aller regarder la valeur, c'est le PIB, donc le produit intérieur brut. Et en fait, avec ce scénario, ce qu'on se dit, c'est si demain, on est capable de voir la valeur autrement, avec une manière plus sociale, plus environnementale que le PIB, alors en fait, on change complètement ce que veut dire la valeur, donc on change les décisions qu'on prend. Et on est probablement à moins d'une décennie de ce type de possibilité, donc c'est possible. Et il y a des gens qui sont alarmistes et qui disent oui, mais c'est trop tard, c'est trop tard, c'est trop tard. Il faut se dire qu'il n'est jamais trop tard pour faire bien. Et que donc, même si ça prend 5 ans, même si ça prend 10 ans, si on va vers ça, on sera toujours sur la meilleure voie que si on n'y va pas. Et donc, c'est pour ça qu'aux personnes qui sont alarmistes, je dis, en fait, il faut continuer à se battre pour ce qui est juste, parce que, en fait, si on arrête, on va juste dans des zones qu'on ne contrôle plus et pour lesquelles, en fait, on n'a pas du tout envie d'y aller. Et la cinquième famille de scénarios sont un peu tous les scénarios qui peuvent paraître loufoques, mais pour lesquels il faut garder un esprit ouvert. Je te donne un exemple qui peut paraître loufoque. Imagine demain les extraterrestres débarquent sur Terre, une forme de vie intelligente. Est-ce que ça ne change pas notre civilisation? Probablement que si. Dans tous ces scénarios loufoques, en 2015, on en avait mis un qui s'appelait un virus mondial qui confinerait tout le monde à la maison. Et c'était dans les scénarios loufoques. Donc, tu vois, c'est parfois. Et la probabilité que ça arrive a été très faible. Et je peux te dire que toutes les entreprises qui ont préparé leur business plan fin 2019, elles ne s'attendaient pas du tout à un Covid en 2020. Et il y a tout un tas de choses comme ça dans cette famille de scénarios. On essaye de lister toutes les choses auxquelles on ne s'attend pas, mais pour lesquelles il ne faut pas dire que c'est impossible.
Et parce que donc là, on est vraiment au niveau de la société, au niveau mondial, vraiment en mode méta. Si on revient au niveau du manager et qui a aussi un rôle, parce que comme tu dis, on est une société, des humains, on est un collectif et chacun a, comme le colibri, un petit impact à son côté. Comment un manager, dès aujourd'hui, peut contribuer d'une certaine manière à la construction, à matérialisation d'un scénario souhaitable plutôt que de subir la matérialisation d'un scénario qui n'est justement pas souhaitable.
Pour moi, il y a trois sphères sur lesquelles le manager agit. Il y a la sphère de son organisation, c'est-à-dire au travers son équipe et à travers les liens qu'il entretient dans l'organisation. Il y a la sphère personnelle, c'est-à-dire sa famille, c'est l'éducation qu'il va pouvoir avoir avec ses enfants, c'est un rôle clé pour la société de demain. Et puis la troisième sphère, ça va être la sphère citoyenne. Donc, comment je vais m'engager dans le débat public, comment je vais m'engager dans l'associatif. Donc, la sphère personnelle et la sphère citoyenne, elles concernent tout le monde. En tant que manager, on a un rôle particulier parce qu'en tant que manager, on a une sphère d'influence sur son équipe déjà, et puis après sur les personnes avec qui on est en relation dans l'entreprise. C'est un rôle très particulier, manager. On est vraiment l'interface entre ce qu'il y a plus haut que nous et ce qu'il y a en dessous de nous. Donc ça, c'est le côté très hiérarchique. Mais si on le regarde différemment, d'un point de vue fonctionnel, on est aussi la personne qui est en mesure de créer beaucoup plus de circulation entre tout ce qui existe dans l'entreprise. Par exemple, au niveau de ton équipe, en tant que manager, tu es obligé de suivre tout un tas de règles de l'entreprise. Ça, c'est le cadre que te pose ton entreprise. Et suivant les entreprises, ce cadre, il va être plus ou moins contraignant. En revanche, en tant que manager, bah, tu as la possibilité et l'intelligence de pouvoir essayer de maximiser la liberté dans le cadre. Comment tu fais pour que dans ce cadre-là, les personnes qui bossent avec toi, eh ben, elles puissent développer la meilleure autonomie possible, le meilleur sens des responsabilités, que peut-être qu'en tant que manager, tu peux essayer de pousser. Beaucoup d'entreprises, par exemple, permettent le mécénat de compétences. Mécénat de compétences, quand tu donnes un peu de temps en dehors de l'entreprise. Ben, il faut savoir qu'aujourd'hui en France, sur tout le mécénat de compétences qui est donné, il n'y en a que 8% qui est pris. Première cause du fait qu'on n'est qu'à 8%, les managers disent, alors oui, ils peuvent, mais ils ne sont pas obligés. Je préfère qu'ils bossent pour moi. Donc tu vois, en tant que manager, tu as aussi cette responsabilité de te dire, oui, mon rôle, c'est de bosser pour l'entreprise, mais si je ne fais que ça, je ne sers que l'entreprise.
Ok, donc il y a un vrai travail de mindset, en fait, si je comprends bien, de ne pas voir notre rôle que, justement, moi, je suis le manager de cette équipe, le manager dans cette entreprise, mais de me voir comme citoyen, en fait, qui a une responsabilité et qui joue un rôle, justement, sur la construction du futur.
Bah exactement, il faut pas se limiter au seul objet de l'entreprise. C'est, on a des marges de manœuvre, on a une forme de liberté. Quand on est manager, et suivant les endroits où on est manager, elle est plus ou moins forte. Et la pression, elle, est plus ou moins forte. Et donc, c'est très dur d'être manager en 2026. Il y a de plus en plus de gens qui ne veulent plus manager
Ouais.
parce que relationnellement, c'est trop dur. Et du point de vue de la pression subie, c'est trop dur. Et donc, en fait, bah, quand on choisit de rester manager, on n'a pas le choix. Il faut qu'on arrive à transformer ces difficultés relationnelles et cette pression en autre chose. Et donc, en fait, ça veut dire que le manager doit plus être le goulot d'étranglement. Le manager, ça doit être un peu le chef d'orchestre qui permet à l'équipe de devenir autonome et responsable. Moi, je vois encore des équipes où le manager essaye de tout contrôler tout le temps, plutôt que d'essayer de faire en sorte que tout passe par l'équipe et le moins par lui. Donc, je pense qu'on en est là. Un exemple frappant en France, les réunions. En France, un cadre a en moyenne 23 heures de réunion par semaine. C'est énorme. Et plus de la moitié de ta semaine est pourrie par des réunions. Comment tu veux bosser? Sur ces réunions, certaines sont utiles. C'est dans les réunions, parfois, tu as trois types de réunions. Tu as celles qui créent du lien. Celles-là, il faut les garder à tout prix. Tu as celles qui sont politiques. C'est-à-dire, ben, une entreprise, ça reste un milieu relativement politique où il y a des jeux de pouvoir. On est des êtres humains et donc on ne l'enlèvera pas de sitôt. Donc ça, en fait, tu ne peux pas t'en extraire, sinon tu finis par perdre la partie. Et le troisième, ça va être la raison principale pour laquelle on fait des réunions. Autrement dit, supposément résoudre des problèmes. Dans plus de 80% des cas, on n'a pas besoin d'une réunion pour résoudre ces soi-disant problèmes. Donc, on pourrait le faire autrement. Déjà, documenter un peu le soi-disant problème pour se rendre compte qu'il n'y a pas besoin forcément d'une réunion pour ça. Dans plus de 2 tiers des cas, les personnes qui sont invitées dans les réunions ne sont pas pertinentes pour la réunion. Elles y sont parce qu'il faut du monde, parce que je ne sais pas quoi. Le manager, c'est typique. C'est souvent, il va y avoir une réunion avec quelqu'un dans l'équipe, on va demander à ce que le manager soit là. Parce que c'est bien d'avoir quelqu'un de plus haut gradé dans la réunion. Alors que ce n'est pas du tout le rôle du manager, c'est un décalage des tâches. Et donc là, ça va être aussi le rôle du manager d'avoir cette forme d'exigence et d'éducation, de faire la part des choses entre quand est-ce que ma réunion est là pour créer du lien social, ou il faut que je la garde, quand est-ce qu'elle est purement politique, et quand en fait, juste c'est une réunion qui est mal conçue, mal pensée. Et souvent, parce qu'il n'y a pas d'ordre du jour, pas de livrable. Et rien que quand on récupère ce temps, tu vois, on parle de pression, de difficulté, de machin, tout ça. Rien que quand tu récupères ce temps des réunions, ta semaine change. Imagine que si tu gagnes 10% de ton temps dans la semaine, tu as récupéré une demi-journée. C'est énorme.
Wow, ouais. Et c'est vrai que ce temps gagné pourrait être réinvesti sur justement cette contribution au futur souhaitable. Le problème, par contre, que je vois, je ne sais pas si toi tu as identifié la même chose, et on le voit notamment avec l'IA, on dit qu'il y a un gain de productivité énorme. On arrive à produire plus. Donc on gagne du temps si on est plus productif. Le problème, c'est que on gagne du temps, mais en fait, on gagne du temps pour pouvoir produire encore plus. ce qui génère du coup une fatigue cognitive parce qu'on est constamment en train de produire et on a aussi ce stress de devoir produire encore plus. Donc toi, est-ce que tu vois la même chose? Et si c'est le cas, quelles seraient les bonnes pratiques qu'on pourrait mettre en place justement pour ne pas tomber dans ce piège?
Alors, en fait, si on récupère une demi-journée, je ne dis pas que la priorité, c'est de la réinvestir en dehors de l'entreprise. C'est aujourd'hui, tout le monde est tellement sous l'eau qu'il faut aussi être un peu réaliste. Il faut déjà commencer par la réinvestir intelligemment sur ce qu'on a à faire. Mon point là-dessus, c'est de dire qu'on ne manque pas forcément de temps, on manque très souvent de clarté. Tu vois, quand je parlais de l'exigence sur une réunion, tout ça, bah, c'est vrai pour tout. Sur les 3 dernières années, de plus en plus de gens se sont mis à utiliser les IA génératives. Pourquoi? Parce que ça fait gagner du temps. Aujourd'hui, les gens n'ont pas plus de temps à la fin de la semaine. Ils utilisent les IA génératives, mais n'ont pas plus de temps à la fin de la semaine. Hein, et plus grave, ils n'ont pas le sentiment d'avoir créé plus de valeur à la fin de la semaine. Mmh. Et les études le montrent aujourd'hui, sur les 3 dernières années, l'apport des IA génératives ne permet pas d'affirmer pour sûr que ça a créé plus de productivité. Alors que tout le monde les utilise, tout le monde travaille plus. Donc, c'est comme tu dis, on fait plus de plus. Et ça, c'est un phénomène psychologique classique. L'être humain opère à son niveau de compétence par défaut. Donc, c'est-à-dire quand tu as fini une tâche en 20 minutes au lieu d'une heure, tu ne vas pas te dire « je vais investir intelligemment ce temps pour progresser ». Certaines personnes le font, mais c'est à la marge. De manière générale, qu'est-ce qu'on fait? On passe à la tâche suivante. Ouais. Et la tâche suivante, on la fait au niveau de compétence dont on est habitué. Donc, on ne devient pas meilleur. On est juste comme un hamster qui tourne plus vite dans sa roue. On fait plus de choses. Le rôle du manager demain, c'est de permettre à l'équipe de prendre du recul en disant « on utilise l'IA, objectivement, on a gagné du temps. Si on se servait de ce temps pour faire mieux plutôt que juste pour faire plus. » Parce que la boîte, en fait, les boîtes qui vont réussir demain, ce n'est pas juste celles qui feront plus. C'est dans ce marché dans lequel on est, qui est un marché très compétitif, qui évolue vite. L'enjeu, ce n'est pas de faire plus, c'est de faire mieux, c'est d'être meilleur. Pour qu'une entreprise devienne meilleure, les gens dans l'entreprise doivent devenir meilleurs. Donc, ce n'est pas juste le sujet de faire plus. Dans toutes les transformations, faire un peu plus, ça fait partie du sujet. Mais là, le problème qu'on a avec l'IA, c'est que c'est uniquement ce qui se passe. C'est on fait plus de plus à notre niveau de compétence et sincèrement, faire plus de réunions, de mails et de papiers qu'on a écrits avec l'IA, ça ne crée pas plus de valeur dans l'entreprise. Donc, les tips pour faire ça, c'est-à-dire bah, déjà, c'est le tout premier, c'est regarder votre agenda. C'est dans mes équipes, ça fait 15 ans que je gère des boîtes et j'ai développé cette hygiène petit à petit. 6 semaines de préparation sur l'agenda. Ton agenda doit être préparé 6 semaines à l'avance. Ça ne veut pas dire que tu sais tout ce qui va t'arriver. Ça veut dire que si tu as tes gros morceaux à caser, ce qu'on appelle des temps de travail profond, deep work, focus time, des créneaux de 2-3 heures d'affilée où tu vas bosser en profondeur sur un sujet, ils doivent être placés 6 semaines à l'avance. Parce que sinon, ça n'arrivera jamais, en fait. La nature n'aime pas le vide, elle sera remplie de tout un tas de petits parasites. Deuxièmement, bah, c'est s'y tenir. Je vois plein de gens faire des beaux agendas et ne pas s'y tenir, ça ne sert à rien. Et donc, dans s'y tenir, il y a aussi éduquer son écosystème avec. C'est quelqu'un qui te met une réunion sur un créneau où tu ne veux pas, c'est il faut lui dire. Et il faut lui dire de ne plus le faire. Et parfois, on ne peut pas. Parfois, ça ne va pas marcher, mais parfois, ça va marcher. Comme j'aime bien dire, il y a plein de gens qui me disent « Ouais, mais je ne fais pas ça parce qu'une fois sur deux, ça ne marche pas. » Moi, je suis pragmatique, ça veut dire qu'une fois sur deux, ça marche.
Ça.
et que c'est une base pour s'améliorer. Et donc, le troisième point, bah, c'est s'améliorer. C'est les plans qu'on va faire sont mauvais par défaut. On sait comme ça. Et donc, plus on va avancer et plus on va apprendre à connaître nos rythmes, nos cycles, les moments où on a de l'énergie, les moments où on en a moins, les moments où on préfère telle tâche ou telle tâche. Et petit à petit, on va prendre une structure qui nous épuise moins et qui crée plus de valeur tout en nous prenant moins de temps. Donc, c'est ça l'objectif, tu vois, c'est ces trois trucs-là. C'est s'assurer en fait qu'on produit le bon niveau de valeur, s'assurer qu'on s'économise et en même temps s'assurer qu'à la fin, il nous reste quand même du temps. Les gens ont tendance à confondre charge de travail et temps.
C'est justement, c'est quoi la confusion que l'on voit par rapport à ça, charge de travail et temps?
Eh bien, en fait, parfois, donc dans la charge de travail qu'on a, il y a un vrai sujet de se poser la question, est-ce que c'est à moi de le faire déjà? Est-ce qu'il n'y a pas une délégation possible? Est-ce que ma manière de le faire, elle est optimale? Souvent, j'ai l'habitude de faire comme ça depuis 10 ans, mais en vrai, le monde a changé depuis et peut-être qu'il existe d'autres manières de bosser. Et ça, je le vois tous les jours. Hein. Des gens qui font comme ça parce qu'ils ont l'habitude. Donc, ils opèrent à leur niveau de compétence. Ou des gens, en fait, qui préfèrent prendre ce temps-là ou machin, alors que ce n'est plus là qu'est la valeur. Et ça, c'est le plus gros risque. C'est que les gens n'ont pas compris le déplacement de la valeur. Donc, cette clarté, elle permet de se dire, attention, ce n'est pas parce qu'un truc représente une grosse charge que ça représente beaucoup de temps. Moi, parfois, il y a des très gros sujets que je traite en 10 minutes et des tout petits sujets qui vont me prendre 3 heures. Et bien, les tout petits sujets qui vont me prendre 3 heures, je me pose la question d'est-ce qu'ils devraient exister? Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la matrice d'Eisenhower, tu sais, sur le urgent important. Ça vient se combiner avec plein d'autres méthodes de travail. Si ça t'intéresse, il y a un bouquin que je recommande pour toutes les personnes qui aimeraient tout un tas de tips pour prendre des meilleures décisions au quotidien. Ça s'appelle Le Livre des décisions par Michael Krogerus. Moi, c'est un bouquin qui m'a changé la vie sur mon organisation. Donc, c'est tout un tas de petits frameworks sur comment prendre des bonnes décisions.
Le livre des décisions, merci. Bah, je prends note de la ref. Ça a complété ma bibliothèque qui déborde de partout, mais j'ai à prioriser du coup. super intéressant. Par rapport, j'ai quand même envie, j'ai plein de questions à te poser, mais il y a celle-là qui me vient. Tu as parlé justement de préparer 6 semaines à l'avance pour avoir notamment des temps de deep work, pour avoir ce recul de pas, de se challenger, de pas toujours faire ce qu'on a l'habitude de faire, pour pas rester à son niveau de compétence, mais à se challenger pour progresser et faire les choses différemment. Ça fait penser au livre de Daniel Kahneman, que je pense que tu connais, Système 1, Système 2. Et c'est vrai que notre société est construite sur ce système rapide, intuitif, tout va vite, etc. On n'a plus le temps de prendre le temps justement pour être dans ce système où on va faire du deep work. J'ai l'impression en t'écoutant que le rôle du manager justement, c'est de réussir par leadership, à faire prendre du recul son équipe pour justement les aider à être moins dans ce mode réactif, court, etc. et plus souvent dans du profond, dans du deep work. Est-ce que j'ai bien compris aussi cette partie-là de ton message?
Oui, tout à fait, tout à fait. Je dirais même pas que du deep work, c'est de manière générale être plus dans une attitude réflexive. Par exemple, c'est quand on fait un boulot, c'est de se poser la toute première question de qu'est-ce que je cherche à atteindre avec ça? Pas juste quelle case je dois cocher, c'est qu'est-ce que je cherche à atteindre avec ça? Parce que très souvent, on ne le fait pas de la même manière. Je vois tellement, tellement de gens faire les choses parce qu'elles doivent être faites et à la fin être quasiment hors sujet ou avoir pondu des usines à gaz pour rien. Manque de réflexivité. Le boulot du manager, c'est d'augmenter la réflexivité de son équipe, notamment. Parce qu'une équipe qui réfléchit mieux, qui prend plus de recul, elle est moins dépendante de son manager. Donc ça, c'est un phénomène qu'on voit énormément. Et plus on va vite, et plus c'est dur. Tu as raison, hein. Et donc, moi, par exemple, je pense que j'ai déjà, à titre personnel, juste sur moi-même, 2, 3 heures par semaine dédiées à la structuration de mon agenda. Mais ces 2, 3 heures par semaine m'en font gagner des dizaines. Et après, en équipe, nous, tous les lundis matin, on a ce weekly qui est un processus réflexif. C'est où à chaque fois, on a un retour d'expérience sur la semaine passée et on fait un pré-retour d'expérience sur la semaine à venir. Qu'est-ce qu'il faut pour que ma semaine se passe bien et que ma semaine soit efficace? Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qu'il faut pour que je sois content à la fin de ma semaine? Et ça, on ne se le pose plus assez, tu vois, c'est juste qu'on enchaîne nos semaines.
C'est ça. Super passionnant. Merci beaucoup, Jérémy. J'aurais aimé continuer cet échange, mais je trouve que là, on a vraiment touché l'essentiel, notamment sur cette question, comment se préparer pour le futur et regagner confiance. Donc, merci pour tous tes partages. Pour les personnes qui veulent découvrir ton travail, en savoir plus sur toi, donc je sais que tu es très actif sur LinkedIn, mais surtout en ce moment, enfin récemment, donc ça fait 1 an, tu m'as dit tout à l'heure en off, tu as lancé une association Les Émergences, donc sur lesémergences.fr. Donc, tu parles de ces sujets-là également, si j'ai bien compris.
Oui, en fait, on parle surtout de comment faire pour reprendre confiance dans le futur et comment faire pour en faire partie.
Super. Donc, le lien est dans le descriptif de la vidéo. Allez sur lesémergences.fr pour découvrir le travail de Jérémy et de son équipe. Merci beaucoup, Jérémy, et à très bientôt.
Merci beaucoup, Jérôme. Merci encore. À très bientôt. Au revoir.